Ludovica Lévy, Noirot. Oh, n'ayez pas peur, monsieur, vous ne manquerez pas le train. Voilà 15 ans que je mène des voyageurs au chemin de fer, et jamais je leur ai fait manquer le train. Entendez-vous, monsieur? Jamais. Oh, ne regardez pas votre montre. Il y a une chose qu'il faut savoir, et que votre montre ne vous dira pas. C'est que le train est toujours en retard d'un quart d'heure. Il n'y a pas d'exemple que le train n'a pas été en retard d'un quart d'heure. Et il y en eut ce jour-là. Le train avait été exact et je le manquais. Mon cocher était furieux. Mais il faut prévenir, disait-il au chef de gare. Il faut prévenir si le train se met à partir à l'heure. Oh, jamais on n'a vu ça. Et prenant à témoin tous les assistants. N'est-ce pas qu'on n'a jamais vu ça? Oh, je ne veux pas paraître fautif auprès de monsieur. Un train à l'heure, un train à l'heure. Dis-tu bien que c'est la première fois que ça arrive. Et je fus d'un cri général. Oh oui. Ordinairement, il a du retard. Je n'en avais pas moins 3 heures à passer dans un très mélancolique village du canton de Vaud, flanqué de deux mélancoliques montagnes qui avaient deux petites houppettes de neige sur la tête. Comment tuer ces 3 heures? À mon tour, j'invoquai l'assistance, et ce fut un nouveau cri général. Allez voir le chaudron! Il n'y a rien à voir dans le pays. D'autres. Mais où était-il ce chaudron? Sur la montagne de droite, à mi-chemin. Mais le chemin est un peu compliqué. Alors on me conseillait de prendre un guide. Et là-bas, dans cette petite maison blanche avec des volets verts, je devais trouver le meilleur guide du pays, un bonhomme, le père Simon. Je m'en allais frapper à la porte de la petite maison. Une vieille femme vint m'ouvrir. Le père Simon? Oui, c'est bien ici, mais voilà. C'est pour aller au chaudron. Oui, c'est pour aller au chaudron. Eh bien, il va pas très bien ce matin, le père Simon. Il n'a pas de jambes. Il ne peut plus pas sortir. Cependant, oh, ne vous inquiétez pas, monsieur. Il y a quelqu'un pour le remplacer. Il y a notre Noirot, notre chien. Comment votre chien? Oui, Noirot. Oh, il vous conduira aussi très bien, aussi bien que mon mari. Il a l'habitude. L'habitude. Oui, certainement. Depuis des années et des années, le père Simon l'emmène avec lui. Alors, il a appris à connaître les endroits. Il a bien souvent conduit les voyageurs. Et nous avons toujours eu des compliments. Pour ce qui est de l'intelligence, oh, il y en a autant que vous et moi. Il ne lui manque que la parole, mais ce n'est pas nécessaire, la parole. Si c'était pour montrer un monument. Oui, qu'alors il faut avoir fait des écrits, des études, des dates héroïques, historiques, mais ici, il n'y a que des beautés de la nature. Prenez Noirot. Et puis, ça vous coûtera moins cher. C'est 3 francs. Mon mari et Noirot, ça n'est que 30 sous. Et il vous fera voir pour 30 sous autant que mon mari pour 3 francs. Je l'appelle, pas vrai? Oui, appelez-le. Moreau, Moreau! Il entra. C'était un petit chien noir, à longs poils frisés et ébouriffés, où il ne payait pas de mine. Mais il avait cependant, dans toute sa personne, un air de gravité, de décision, d'importance. Son premier regard fut pour moi un regard net, précis, assuré, qui m'enveloppait des pieds à la tête, un regard qui disait clairement: Oh, c'est un voyageur, il veut aller voir le chaudron. J'en avais pour ce jour-là assez d'un train manqué et je désirais essentiellement ne pas avoir une seconde fois pareille mésaventure. J'expliquai à cette brave femme que je n'avais que 3 heures pour ma promenade au chaudron. Oh, je sais bien, me dit-elle. Vous voulez prendre le train de 4 heures? Oh, ne craignez rien, Noirot vous amènera à temps. Allons, Noirot. En route, mon petit garçon. Allez, en route. En route. Au chaudron. Au chaudron. Au chaudron. Au chaudron. Elle répéta ces mots 4 fois, en parlant très lentement et très distinctement. Cependant, ce temps-là, moi, j'examinais Noirot très curieusement. Il répondait aux paroles de sa maîtresse par petits signes de tête qui allaient en s'accentuant, et il entrait évidemment à la fin un peu d'impatience et de mauvaise humeur. On pouvait les traduire ainsi: Oui, au chaudron, j'ai compris. Oui, j'ai parfaitement compris. Ah, mais ça, vous me prenez pour une bête. Et sans laisser finir le quatrième au chaudron de Madame Simon, Noirot, évidemment blessé, tourna les talons, vint se planter en face de moi, et du regard me montrant la porte, me dit aussi nettement qu'il fait éperpiller un chien de le faire: Allons, venez vous. Je le suivis docilement. Nous partîmes tous les deux, lui devant, moi derrière. Nous traversâmes ainsi tout le village, des enfants qui gaminaient dans la rue murmurèrent, reconnurent mon guide. Hé, Noirot! Bonjour, Noirot! Il voulait jouer avec le chien, mais il tourna la tête d'un air dédaigneux, de l'air d'un chien qui n'a pas le temps de s'amuser, d'un chien qui est en train de faire son devoir et de gagner 30 sous. Un des enfants s'écria: Laissez-le donc, il conduit le monsieur au chaudron. Bonjour, monsieur. Et tous de rire en répétant: Bonjour, monsieur. Je souriais, mais gauchement, j'en suis sûr. Je me sentais embarrassé, un peu humilié même. J'étais en somme dominé par un animal. Il était pour le moment mon maître. Il savait où il allait, et moi je ne le savais pas. J'avais hâte de sortir du village et de me trouver seul avec Noirot, en face de ces beautés de la nature qu'il avait mission de me faire admirer. Ces beautés de la nature furent pour commencer une affreuse route poudreuse et brûlante sous un soleil de plomb. Le chien marchait d'un pas alerte. Et je me fatiguais à le suivre. J'essayais de modérer son allure. Noirot, allons, Noirot, mon garçon, pas si vite. Et Noirot faisait la sourde oreille, poursuivait sans vouloir m'entendre son petit bonhomme de chemin. Et fut pris brusquement d'un véritable accès de colère quand je voulus m'asseoir au coin d'un champ sous un arbre qui donnait une ombre grêle. Il aboyait d'une petite voix rageuse, me jeta des regards irrités. Évidemment, ce que je faisais était contraire à la règle. On n'avait pas la coutume de s'arrêter là. Et les jappements étaient si aigus, si agaçants, que je me levai pour reprendre ma route. Noirot se calma tout aussitôt et se remit à trottiner gaiement devant moi. Je l'avais compris, il était content. Que ces minutes, quelques minutes après, nous arrivions dans un délicieux chemin, tout fleuri, tout ombreux, tout parfumé, tout plein de fraîcheur et de murmure des sources. Noirot, aussitôt, se glissa sous bois, prit le galop et disparut dans le petit sentier. Je le suivais un peu haletant, et je n'avais pas fait une centaine de pas que je le trouvais, mon Noirot, qui m'attendait, la tête haute et l'œil brillant, dans une sorte de salle de verdure, égayée par la chanson d'une petite cascade mignonnette. Il y avait là un vieux banc rustique, et le regard de Noirot allait avec agitation de mes yeux vers le banc et de ce banc vers mes yeux. Oh, je commençais à comprendre le langage de Noirot. À la bonne heure, disait-il, voilà une place pour s'arrêter. Il fait beau ici, il fait frais. Allons, assieds-toi. Tu peux t'asseoir, je te le permets. Et je m'arrêtai et je m'assis. Et j'allumai un cigare. Je fis presque le mouvement d'en offrir un à Noirot. Il fumait peut-être, mais il s'était déjà couché, assoupi à mes pieds. Il était habitué à faire à cette place une petite halte, une petite sieste. Oh, il ne dormit guère qu'une dizaine de minutes. J'étais d'ailleurs parfaitement tranquille. Noirot commençait à m'inspirer une confiance totale, absolue. J'étais résolu à lui obéir aveuglément. Il se leva, s'étira, me jeta un petit regard de côté qui signifiait « En route, mon ami, en route !» Et nous voilà tous les deux cheminant sous bois à une allure plus lente. Évidemment, Noirot goûtait le charme, le silence et la douceur du lieu. Sur la route, tout à l'heure, ayant hâte d'échapper à cette chaleur, à cette poussière, il avançait d'un petit pas sec, serré, pressé. Il marchait pour arriver. Et maintenant, rafraîchi, détendu, Noirot marchait pour le plaisir de marcher dans les plus jolis petits sentiers du canton de Vaud. Un autre chemin se présente à gauche. Noirot hésite un moment. Il réfléchit. Puis il passe et continue sa route. Droit devant lui, mais non sans quelque trouble, sans quelque incertitude dans sa démarche. Et voici qu'il s'arrête. Il a dû se tromper. Eh oui, car il fait volte-face. Et nous nous jetons dans le sentier à gauche, lequel tout d'un coup, au bout d'une centaine de mètres, nous conduit à une sorte de crique. Et Noirot, le nez en l'air, m'invite à contempler le très respectable hauteur de l'infranchissable murailles de rochers qui forment le cirque. Et lorsque Noirot pense que j'ai suffisamment contemplé, il fait de nouveau volte-face et nous revenons sur nos pas pour reprendre notre pauvre chemin premier. Et Noirot avait oublié de me montrer la crique, le cirque des rochers. Légère faute, qui avait été bien vite réparée. Le chemin devint très montueux, très accidenté, très dur. Bon, je n'avance plus que lentement, avec des précautions infinies. Noirot, lui, saute lestement de roche en roche, mais il ne m'abandonne pas. Il attend, en attachant sur moi des regards chargés de la plus tendre sollicitude. Enfin, je commence à comprendre, à entendre, comme un bouillonnement. Noirot se met à japper joyeusement. Courage, me dit-il, courage, nous arrivons, tu vas voir le chaudron. C'est en effet le chaudron, une source assez modeste, d'une hauteur également modeste, tombe avec des rejaillissements et des rebondissements dans une grande roche légèrement creusée. Oh, je ne me consolerai pas d'avoir fait cette laborieuse ascension pour voir cette très médiocre merveille Si je l'avais eu pour compagnon de route, ce brave noiraud, qui est lui bien autrement intéressant et bien autrement merveilleux que le chaudron. De chaque côté de la source, dans des petits chalets suisses, sont installées deux petites laiteries suisses avec tenues par deux petites Suissesses, l'une blonde, l'autre brune. Toutes deux en costume national. Et sur le seuil de leurs deux petites boîtes découpées à la céramique, elles guettent avidement notre arrivée. Il me semble que la petite blonde a de très jolis yeux. J'avais déjà fait trois ou quatre pas de son côté lorsque Noiraud, éclatant en aboiement furieux, me barre résolument le passage. Aurait-il une préférence pour la petite brune? Je change de direction. C'est bien cela. Noiraud s'apaise comme par enchantement quand il me voit assis à une table de sa jeune protégée. Je demande une tasse de lait. L'ami de Noiraud rentre dans son petit joujou et Noiraud se faufile à sa suite dans la maison. Par une fenêtre entrebâillée, je suis des yeux mon noiraud, le misérable. On le sert avant moi. C'est lui qui est le premier à sa grande jatte de lait. Mais il est vendu. Après quoi, avec les gouttes de lait encore suspendues à sa moustache, Noiraud vient me tenir compagnie et me regarder boire mon lait. Et tous les deux, absolument satisfaits l'un de l'autre, respirant à plein poumon l'air vif et léger de la montagne, nous passons 300 ou 400 mètres d'altitude, une demi-heure délicieuse. Puis Noiraud commence à donner quelques signes d'impatience et d'agitation. Je lis maintenant dans ses yeux un livre ouvert. Il faut partir. Je paye, je me lève. Cependant que je m'en vais à droite vers le chemin qui nous a conduits sur la montagne, je vois mon noiraud qui va se planter à gauche, à l'entrée d'un autre chemin. Il attache sur moi un regard sérieux, sévère. Que de progrès j'ai fait depuis 2 heures! Et comme la silencieuse éloquence de Noiraud m'est devenue familière. Et quelle opinion as-tu de moi? Me dit Noiraud. Crois-tu que je vais te faire deux fois la même route? Non, pas vraiment. Nous allons descendre par un autre chemin. Descendons par cet autre chemin. Mon guide me laisse tout le loisir d'admirer un très remarquable point de vue. Et quand nous arrivons à la gare, voici comment je traduis en bon français le dernier regard de Noiraud. Nous sommes en avance de 20 minutes. Ce n'est pas moi qui t'aurais fait manquer le train. Ludovic Halévy.